Chacune, on se délecte de sa présence, j'espère, de la présence de Christ. C'est lui-même, l'apôtre Paul qui disait lui-même, mon but c'est de le connaître. Et pourtant c'était quand même l'apôtre Paul, mais il a dit mon but c'est de le connaître. Et je crois que dans ce temps de louange ce soir, le Seigneur nous invite à le connaître dans le sens biblique du terme. Connaître, ce n'est pas avoir une connaissance théorique de quelque chose, mais c'est vraiment connaître intimement Dieu. Et Dieu nous invite à le connaître intimement. Ta connaissance de Dieu que tu as aujourd'hui, eh bien, elle peut encore grandir. Et elle est appelée à grandir, parce que Dieu est un Dieu qui se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Dans les textes bibliques, souvent on voit cette expression « chercher ma face ». Vous vous rappelez dans les textes de l'Ancien Testament « chercher ma face ». Chercher ma face, et en fait le mot qui est là, pour le mot face, c'est présence. C'est chercher ma présence, chercher ma face. Donc Apple avec FaceTime, ils sont dans le juste quoi. Il y a une appli sur Apple qui s'appelle FaceTime, donc c'est le temps de face quoi. Et avec Dieu, on peut vivre ce temps vraiment d'intimité, de face à face. Et c'est notre privilège extraordinaire. Et j'espère qu'on peut le mesurer. En se disant, c'est vraiment une grâce que Dieu nous permet de vivre, d'être dans sa présence. Rien en nous n'était favorable pour qu'on soit accepté dans sa présence. Et j'ai l'impression que plus je lis la parole de Dieu, plus je vois, entre guillemets, un peu deux repentances. Il y a la repentance qu'on expérimente lorsqu'on entend l'évangile, et puis on se rend compte qu'on a fait fausse route, et que Dieu est amour, et qu'il nous appelle. Alors on peut tomber sur ses genoux et dire « Pardon, Dieu, j'étais loin de toi pendant toutes ces années, j'étais dans le péché, j'étais éloigné, je pensais pas à toi. » Et ça, c'est la repentance pour dire première, je ne sais pas si c'est très théologique ce que je dis, mais plus j'avance et plus je vois une deuxième repentance. Et je trouve que celle-là, elle fait vraiment défaut, cette deuxième repentance dans nos vies, dans le peuple de Dieu. Cette deuxième repentance qui est une repentance presque quotidienne, qui est là pour nous dire, pour nous réaligner, pour nous mettre toujours en phase avec ce que Dieu veut. Parce que intérieurement, il y a la chair qui nous pousse à nous éloigner de Dieu. Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La mienne, la vôtre. La vôtre, elle est faible, elle veut pas prier, elle veut regarder la télé, elle veut jouer sur des jeux vidéo, elle veut se perdre dans des magazines qui n'ont aucun but en soi, elle veut se repaître de quelque chose qui n'est pas éternel et qui ne mène à rien. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Et puis, mais il y a la chair et puis il y a notre volonté qui parfois ne veut pas prendre un temps de prière avec le Seigneur. Elle ne veut pas. Elle dit non, je décide ça. Et Dieu dit ok. Dieu est d'accord de se mettre au niveau de notre volonté, de ta volonté. Ce n'est pas une obligation de prier. Il n'y a pas cette obligation. Par contre, il y a des conséquences. Voilà, il y a des conséquences. Il y a quand même un chemin de bénédiction plus intense qui nous attend alors qu'on est proche de Dieu. Il y a cette intimité que nul autre ne peut connaître. Si on prend du temps dans la prière. Et vous savez quoi? On ne peut pas faire l'économie de la prière dans la vie, dans la vie chrétienne. Alors, il y a plein de défauts dans nos vies chrétiennes, il y a plein de défis aussi, il y a aussi plein d'obstacles qui peuvent être là, et des obstacles qu'on ne soupçonne pas et qu'on pense être pas des obstacles. Et c'est ça qui est extraordinaire. On pense peut-être que moi, mais qu'on est juste, qu'on est dans le juste, alors qu'il suffirait peut-être de comprendre un peu mieux la parole de Dieu pour réaliser, ah, il y a encore ça dans ma vie qui ne joue pas. Dieu veut le changer, Dieu veut le modifier, il veut faire le vase à son image. Voilà, on est tous à des niveaux différents de relation avec le Seigneur, mais tous, on peut dire, Seigneur, je veux vivre encore plus proche de toi. Qu'est-ce qui fait obstacle dans ma vie? On l'a chanté tout à l'heure, Anne nous y a exhorté. Qu'est-ce qui fait obstacle dans ma vie? Et ça, c'est important de faire cette prière. Sinon, les années passent, les mois passent. Je ne sais pas quand je vais mourir. Dieu le sait, mais le temps ne peut pas se rattraper. Le temps qu'on a perdu, que j'ai perdu ici-bas, gaspillé, je ne peux pas le rattraper. C'est trop tard. On ne peut que décider de faire la volonté de Dieu et de se réjouir que le Saint-Esprit est à nos côtés et de se consacrer à lui de plus en plus et de mieux en mieux. Dans les adversaires qu'on a dans notre génération, on est devenu une génération addictive ou addictogène, je ne sais pas comment dire ça, où on est vite pris, on peut être vite pris si on ne fait pas attention par les choses de ce monde. Ce n'est pas qu'elles sont mauvaises en soi. Je prends l'exemple du Natel. Il n'est pas mauvais en soi, c'est très bien Natel, mais on peut y passer trop de temps dessus. On peut surfer sur Internet pendant X temps, puis on passe à côté. Ce n'est pas mauvais en soi, mais ça crée une addiction, un produit chimique en nous qui fait qu'on estime qu'on ne peut pas vivre sans. On ne peut pas vivre sans. Et ça, c'est un mensonge du menteur, l'adversaire de nos âmes. Et c'est pour ça que dans 1 Jean 2,15, sautez avec moi dans 1 Jean 2,15, et vous savez quoi, hein, à l'époque, ils avaient les mêmes problèmes, les mêmes défis, autrement que technologiques certainement, mais ils avaient les mêmes défis que nous. 1 Jean 2,15, n'aimez point le monde, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Verset suivant, le 16, qu'est-ce qui est dans le monde ? En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses vient non du Père, mais du monde. Et les versets continuent en disant, et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde passe. Toutes ces choses qui nous paraissent tellement essentielles, tout ce qui est dans le monde, on va un peu définir ça ce soir, eh bien tout ça, ça passe. Ça va passer. Fumer. Comme dit Jacques, c'est des nuages sans eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Il n'y a rien, des nuages qui passent, on aimerait qu'il pleuve, mais il n'y a pas d'eau dedans qui nous arrose. Voilà, tout ça, ça part, c'est en fumée. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur qui est de trop, ou dans notre âme, ou dans nos pensées ? Qu'avons-nous mis, ou laissé inviter, qu'avons-nous invité, et que ça prend trop de place du Seigneur ? On est dans cette deuxième, entre guillemets, repentance, qui attriste Dieu. Il ne faut pas croire que tout ce qui est en trop dans nos vies, Dieu il s'en fiche. Parce qu'il a dit qu'il est un Dieu jaloux, un Dieu extrêmement jaloux. Il aimerait qu'on soit tout à lui. Il veut qu'on soit tout à lui. Voilà. Et c'est important de faire dans cette deuxième repentance cette réflexion. Et dans les écrivains bibliques, en fait, plus je parcours la parole de Dieu, et plus je vois des hommes, des femmes qui ont accepté, en fait, de faire ce travail, d'accepter l'œuvre de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous montre aujourd'hui ? Te montre. Qu'est-ce qu'il veut te montrer ? On parlait il y a 3 semaines de l'émondage dans la réunion de prière. Que veut-il me montrer ? Qu'est-ce qui prend trop de place ? Souvent, ça commence par un M, ça finit par un I, et c'est un mot de 3 lettres, M-O-I, moi. Qu'est-ce qui prend trop de place ? Le moi ? Moi-je ? Il n'y a qu'un seul, à la limite, qui pourrait dire moi-je, puis qu'il ne le dit pas, c'est Dieu. C'est Dieu, il présente son Fils, il présente l'Esprit de Dieu, Dieu le Père. Et ça, Dieu n'est pas du tout centré sur lui, mais voilà, il a des plans, il a des choses glorieuses. Donc n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. C'est tout simple, hein, l'évangile, la première épître de Jean, n'aimez pas le monde. Qu'est-ce que c'est le monde ? Ce n'est pas la création, les arbres, etc. Ça, c'est glorieux, ça amène à Dieu, mais c'est les principes qui sont dans ce monde. Ce qui dirige ce monde, c'est ce qui attire les yeux, le star system, tout ça, ce système-là, tout ce principe-là qui est là, qui est appelé à passer. Les stars, les vedettes passent, elles décèdent. On fait des gros enterrements. On a Johnny Hallyday. La France est Paris et pleure Johnny. Voilà, mais ça passe, ça passe. C'est du vent. Je ne dis pas qu'il n'avait pas de talent, il avait du talent, etc. Mais ça passe, etc. C'est ce qui est dans ce monde-là. Et ce principe-là, ce n'est pas le principe du royaume de Dieu. Et on est appelé, d'après cet écrit de Jean, vraiment, à ne pas ou à ne plus aimer ce qui est dans le monde. Mais le secret, vous savez, Jean, c'est un auteur juif. Il prend les choses d'une certaine approche. Puis nous, occidentaux, pour bien que ça pénètre, on peut les prendre d'un autre côté, qui est toujours la parole de Dieu. On prend les versets, on les retourne. Et en fait, Jean est en train de dire, mais si vous avez vraiment découvert l'amour du Père, eh bien, l'amour du monde, ça ne sera rien du tout. Vous allez découvrir dans sa présence tellement un amour extraordinaire, permanent, intime. J'ai un petit peu commencé à le découvrir, des gens. Je vous le montre. Que tout le reste, ça sera, excusez-moi, du pipi de chat. Même si c'est le dernier truc à la mode, etc., qui est appelé à passer. Donc, vous voyez, on peut prendre dans l'autre sens, où Dieu nous dit, à travers ce verset, mais découvre mon amour, découvre mon intimité, découvre ce qui est mon cœur, je suis prêt à te le donner. Et dans les modèles qu'on a dans la parole de Dieu, ils sont nombreux. On peut citer par exemple Abraham, qui n'avait ni la Bible, ni rien sur quoi on pouvait se référer dans sa relation avec Dieu, mais il devait, entre guillemets, créer sa propre communion avec le Seigneur, et il est appelé ami de Dieu. Ami de Dieu. Parce qu'il avait un feu en lui qui disait, mais je veux découvrir Elohim. Je veux découvrir ce Dieu qui m'appelle. Il a entendu une voix, Abraham, je vais te donner un pays, non, une descendance, puis après un pays, je vais te donner une descendance. Et puis qui c'est qui me parle? Qui me parle? N'est-ce pas? On peut dire à Dieu qui tu es, vraiment, qui tu es. Alors peut-être vous allez dire, comment on va faire? On arrête tous de travailler, puis on fait 24 heures sur 24, on se réfugie au monastère des petites sœurs, au Voiron. Non, c'est pas cette idée-là. Mais dans notre marche avec Dieu, dans notre quotidien, eh bien, on peut découvrir le secret de sa présence et de l'intimité. Je reviens, vous le savez, d'une semaine, je peux dire ça, historique de ma vie, de un voyage à Jérusalem, où dans une simple conférence, on était peut-être 70, 80, peut-être comme ça, j'ai vu des gens du monde entier, quasi, sauf le continent africain n'était pas vraiment représenté, enfin, il y avait une ou deux personnes peut-être, mais on n'était pas beaucoup, mais des personnes très connues au niveau évangélique étaient là. Et puis, il y avait une conférence dans l'intimité. Et puis, l'idée, c'était, quel est le cœur de Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire pour son Église? Que fait-il pour Israël? Donc, on était là, tout simplement. Il y a eu peu de prédications, et puis, il y a eu beaucoup d'intercessions, de paroles de Dieu. L'Esprit de Dieu a soufflé vraiment en profondeur. Il nous a montré, il nous a fait comprendre qu'est-ce qui était important en ce moment. Et puis, je pense qu'une des choses les plus belles qui étaient là, c'était l'unité dans l'esprit. C'est quand même extraordinaire que des personnes qui ne se connaissent pas pour la plupart, ou peu, arrivent à se retrouver à un endroit, et puis on est frères et sœurs. Le même esprit. C'est formidable. Hein, puis Dieu, dans sa grâce, il nous lie. Voilà, c'est spirituel, quoi. Et puis, il nous donne son même cœur. Son même cœur. Et puis, il l'interpelle. Alors, dans cette conférence, dans ce séjour, avec le pasteur Desbuis, on a découvert un trésor pour l'Église libre. Et ce trésor, j'en ai parlé un petit peu à l'ELG, mais ça s'est confirmé dans les faits, puisque je suis tombé sur un discours d'un des premiers pasteurs, Louis Gossen. Et Louis Gossen déverse dans un discours de 80 pages à peu près son cœur pour Israël, il y a 150 ans. Bien avant la fondation de l'État d'Israël. Bien avant, hein. C'était tous les Juifs étaient dispersés. Il y avait quelques Juifs peut-être en Israël, mais pas beaucoup. Il déverse son cœur et réalise dans la parole de Dieu le plan de Dieu pour Israël, que les Juifs découvrent leur Messie. Et il écrit ça. Il s'entraide avec Émile Guerre, c'est son deux amis, pasteurs, et ils écrivent ça. Émile Guerre, il va faire après un livre de 400, 350 pages sur Israël. Et puis, il y a son discours là, de Gossen. Et puis, il cite dans ce discours, en fait, qu'il y a un premier culte évangélique libre qui s'est fait à Jérusalem, 1850 à peu près. Alors, on s'est dit avec Roland, il faut qu'on aille découvrir, est-ce que ce lieu existe encore ? Parce qu'il avait construit un bâtiment, il le dit, on a construit un bâtiment, enfin, il y a eu un bâtiment construit, des fonds qui sont venus de divers endroits, par miracle. La protection pas de l'émir, mais comment il s'appelait à Jérusalem ? Ou un sultan, ou un moufti de Jérusalem. Ouais, c'était sous domination, je crois, turque. Et puis on a retrouvé ce lieu. Je pense qu'on a retrouvé, parce que les personnes avec qui on était, qu'on a questionnées, eh bien, nous a dit oui, c'était là le premier lieu de culte évangélique. Donc on est allé sur un endroit où ce que Louis Gossen est confirmé par le bâtiment qu'on a vu et qu'on a visité. Et puis là, dans ce bâtiment, c'est un petit bâtiment, c'est une pièce de 60 mètres carrés à peu près, il y a eu les premiers juifs convertis et baptisés de ce moment-là. Et puis Gossen écrit, et ça m'a beaucoup touché, il a dit, mais comment ça se fait que les premiers chrétiens, entre guillemets, étaient des juifs ? Ils ont répandu la parole de Dieu jusqu'à Genève, il dit ça, et puis que pendant 1800 ans ou 1700 ans à peu près, on n'a pas évangélisé les juifs. Bien sûr, localement, il y avait certainement des initiatives, il y a eu des choses. On n'est pas allé jusqu'à Jérusalem pour à nouveau leur annoncer la bonne nouvelle de leur Messie et du Messie. C'est pas incroyable, ça, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Église ? Je pense qu'on a loupé un peu le cœur du Père. Mais gloire à Dieu, il est en train de ressusciter des choses, comme jamais. On a rencontré, dans cette conférence, des personnes d'Asie, de Chine. Il y a des Chinois en dizaines de milliers, pour ne pas dire centaines de milliers, qui prient, qui ont compris, et ce n'est pas simple là-bas, parce que c'est une question de vie ou de mort, qui ont compris que Dieu a un plan et que ça passe par Israël. Des gens de Hong Kong, à qui j'ai discuté, je me suis dit, mais je dois pleurer là, qu'est-ce qui se passe ? C'est incroyable. Des États-Unis, d'Angleterre, puis pas des moindres personnes, enfin je veux dire pas des personnes connues quoi, qui ont dit il faut qu'on soit à genoux, le plan de Dieu est en train de s'opérer. Et puis il y a vraiment, pour faire court, il y a vraiment un réveil, une intensité de Dieu et de l'Esprit de Dieu en Israël. Et des Arabes et des Juifs se convertissent, des communautés se développent et la gloire de Dieu se manifeste. Et puis dans tout ça, Dieu me disait, et les Juifs de Genève, c'est eux que j'ai appelés en premier. C'est eux que j'ai appelés en premier. C'est eux que j'ai appelés en premier. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, je sais, Seigneur, ce que tu me demandes. Déjà de prier pour eux. De prier pour eux. Enfin, ça, je vous livre mon cœur. Mais si je reviens à notre texte, est-ce que dans notre cœur, il y a l'amour du Père ? As-tu l'amour du Père ? Au point que tout le reste, la nouvelle voiture, ou je ne sais pas, ou la dernière, je ne sais pas, tout le reste, tout le reste ne vaut rien. On l'a chanté, hein ? On l'a chanté. Dieu a reproché au temps d'Ésaïe que le peuple honorait Dieu du bout des lèvres, mais son cœur était éloigné. Notre cœur est-il éloigné du Père ? Le Père nous dit, mais viens dans ma présence. Viens dans ma présence. Alors il y a un homme, et puis je pense que après on va prendre un temps de prière, il y a un homme qui a, je crois, saisi le cœur du Père dans l'histoire de l'Ancienne Alliance, c'est Néhémie. Et je prends simplement son exemple. Osée, Joël, Amos, non, c'est encore avant. Les psaumes. Néhémie, qui a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc nos Bibles ne sont pas chronologiques, comme elles sont rassemblées. Et Néhémie, en fait, qui est en exil dans la capitale de Babylonie, qui est Suse. Voilà. Néhémie. Et dans le premier chapitre, il raconte, Néhémie, en fait, qu'il est dans la capitale, donc il a été pris en exil. Tout ça, je pense qu'on ne l'a pas vraiment connu, nous, dans notre génération. Peut-être que certains, vous avez dû être exilés, je ne sais pas. Mais il est en captivité, donc il est au service du roi Artaxerxès, et il fait, Artax, Xerxès, voilà. Et il fait son métier, c'est-à-dire qu'il sert le vin à la table du roi. C'est un privilégié, hein, parce que si tout le monde n'était pas là. Et puis, il se trouve qu'il apprend des nouvelles de Jérusalem, donc c'est loin de chez lui. Babylone, c'est l'Iran quoi, d'aujourd'hui, donc c'était loin à l'époque. Il apprend, son frère vient le voir, il apprend que les murailles de Jérusalem et que Jérusalem ne va pas bien du tout, que les murailles et les portes ont brûlé, ce qui protégeait la ville, et puis que la ville de ses pères, de ses ancêtres, il va dire, elle est mal en point. Il apprend ça et il se met à prier. Il est dans la tristesse. Et déjà là, on voit qu'il ressent le cœur du Père, l'amour du Père. Quand on reçoit l'amour du Père, je crois qu'on peut sentir les projets qu'il a pour nous, mais c'est ses projets à lui. Hein, c'est pas Dieu bénit ma journée, mais quels sont tes projets ? Ça change tout. Au verset 4 du chapitre 1er, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais devant les dieux des cieux et je dis. Et il y a cette formidable prière où il déverse son cœur et il se fait un peu sacrificateur de tout son peuple. Mais alors qu'il prie, eh bien, tout en faisant son travail, il est obligé de le faire bien sûr, eh bien, alors qu'il prie, je crois que Dieu dépose dans son cœur un projet. Celui de rebâtir la muraille. Et quand on est proche du cœur de Dieu, il peut et il veut nous donner son projet. Est-ce que tu as reçu le projet de Dieu ? Quel est le projet que Dieu peut mettre sur ta vie ? Après, le texte continue au chapitre 2. En fait, il se trouve qu'il est un certain jour, il est tout triste dans la présence du roi, que ce n'était pas son habitude. Il y a la reine aussi qui est là. Et puis le roi le remarque et lui dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as un chagrin d'amour ? Tu as perdu ta fiancée, ta copine ou ta femme ?» Il dit « Non, mais comment je pourrais être heureux ?» alors que la ville de mes pères est en ruine. Il reçoit le cœur du Père. Et le roi lui pose la question, parce que c'est un roi, il sait bien gouverner, « Qu'est-ce que tu demandes ? Quel est ton projet ?» Et Néhémie va expliquer, « J'aimerais avoir un congé, j'aimerais aller à Jérusalem, et puis j'aimerais que tu m'autorises d'y aller, parce qu'à l'époque, ben, ce n'était pas Israël qui gouvernait son pays, la Palestine, mais c'était, le roi avait mis des nations étrangères qui étaient là, et puis il y avait un peu un mélange de juifs et d'autres personnes, bref. Mais si Néhémie voulait retourner à Jérusalem et en Judée, il fallait qu'il ait l'autorisation, il fallait qu'il ait un permis B, ou je ne sais pas ce qu'on pourrait dire, pour demeurer à Jérusalem. Et puis comme il est juif, Néhémie, puis qu'il est malin, eh bien il dit, je ne veux pas seulement des autorisations, j'aimerais du matériel. Est-ce que c'est possible que le roi me donne du bois pour rebâtir les portes ? Et il va avoir l'autorisation, donc le roi met la main au porte-monnaie et il donne ce qu'il faut pour que Jérusalem soit rebâtie. Il aurait pu dire, non, attends, c'est moi l'empereur, toi tu es à mon service, tu restes là, terminé. Mais Dieu a touché le cœur. Pourquoi ? Parce qu'il avait le cœur du Père et que Néhémie, et puis qu'il avait prié. C'est une chose de recevoir la pensée de Dieu, petit, moyen ou grand projet, mais il faut entourer tout ça de prières, d'intercessions. Il faut entourer tout ça de prières, de supplications, de jeûnes, de mise à l'écart. Puis peut-être vous allez me dire, ouais, mais Laurent, tu ne connais pas ma vie. Mon programme est chargé, je sais. On a tous des agendas. Qu'est-ce que vous voulez ? Mais il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Dieu ne va pas faire notre place, ni nos frères et sœurs pour nous. Ce n'est pas seulement les personnes à la retraite et à l'AVS qui vont prier, mais Dieu nous appelle à prier. Si on ne prie pas maintenant, quand va-t-on prier ? Si on ne prie pas maintenant. Alors Néhémie, il est touché avec ça, avec ce grand fardeau, on peut dire un fardeau de Dieu, qu'il a sur son cœur. Et puis, il va mettre 4 mois de préparation. Le texte, il y a juste quelques versets, mais j'ai regardé. Il y a 4 mois de préparation, et puis il peut enfin commencer son voyage et après arriver à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il fait à Jérusalem ? Il se pose 3 jours. Il arrive incognito, discret. 3 jours, et au bout de 3 jours, de nuit, en toute discrétion, avec quelques camarades qui partagent le même fardeau, il va faire le tour de la ville, il va examiner, je ne sais pas comment il a fait, mais en tout cas, il dit qu'il était sur un âne ou sur une bête de somme. Il fait le tour de Jérusalem, pas très grand, hein. Il fait le tour pendant la nuit, et puis il dit, ah tiens, il note, je pense, telle porte, telle entrée. C'est dans cet état-là, Et puis, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il aurait pu foncer tête baissée. On disait, ok, on remonte les manches, vous êtes avec moi les gars, 3-4, on y va, porte après porte. Il n'a pas fait ça. Il a discuté avec les magistrats et les juifs, responsables de la ville qui étaient là. Il leur expose son cœur. Il leur dit comment Dieu a été favorable avec lui, qu'il a eu la faveur du roi. Et puis, s'ils sont d'accord, il dit, levons-nous et bâtissons. Et tous les autres disent, ok, on y va. Et avant ça, personne n'avait le courage, l'énergie, le moral pour refermer les portes de Jérusalem. On ne sait pas pourquoi, il y avait quand même des gens qui étaient là, mais l'énergie manquait, le courage, la force, la volonté. Mais Néhémie était cet homme de prière et Dieu l'a suscité. Pour faire court, on peut être des Néhémies. IE, il y a un E, ou I si vous voulez, de notre temps. On peut se mettre ensemble, saisir le cœur du Père, l'amour du Père. Ça demande du temps, ça demande... Oui, j'ai dit encore, on ne peut pas faire l'économie de la prière. Ensemble, et de dire, Dieu, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ce qui compte pour Dieu, là, ce n'est pas tellement l'action de mettre les échafaudages, de fermer les portes, comme ça on est tranquille bien chez nous, mais c'est qu'il a eu le cœur de Néhémie. Il a eu son cœur. Est-ce que tu veux ce soir recevoir le cœur du Père? Attention, il risque de nous faire pleurer. Hein, il risque de nous faire pleurer. J'ai vu un juif messianique qui pleurait pour son peuple. Je me suis dit, lui, c'est un apôtre Paul. Wow. Paul, il dit, hein, je suis prêt à être anathème pour que ceux de ma race puissent connaître Dieu. Il peut nous faire pleurer, mais il a besoin d'avoir un cœur ouvert. Il a besoin d'avoir un cœur qui... Oui, Dieu, qui attrape le sien, qui attrape le sien. Quand je pense à l'histoire du peuple d'Israël, dans cette période où ils avaient des hauts et des bas, je crois que la plus grande tristesse de Dieu, c'était de voir quand le peuple était idolâtre. Je pense que c'était là, quand il y avait une partie du peuple qui était idolâtre. Et dans la plaine, dans un endroit, une plaine juste avant d'arriver à Jérusalem, il y a Jéricho qui est un peu plus bas, et puis il y a une plaine qui est là. Et à un moment donné, nombre 25, eh bien, des femmes, des Moabites, qui sont le peuple, une peuplade qui est là, païenne, quoi, qui n'est pas du tout juive, eh bien, les femmes des Moabites se mettent à séduire les hommes israélites. Et puis eux, droit devant, elles sont belles, on y va, on les met sous nos tentes. Et là, la colère de Dieu se manifeste. Vous rappelez ce texte? Il y a un épisode extraordinaire, il y a un homme qui se lève, là encore une fois, un Néhémie, mais il s'appelle Finé, nombre 25. Finé se lève, c'est un sacrificateur. Il voit passer devant lui, devant Moïse, devant tout le peuple, un Israélite qui est un chef, donc doublement responsable, qui a pris une femme de ce peuple moabite, et ils vont sous les yeux de tout le monde, dans la tente du chef israélite. Tout le monde est atterré, parce qu'évidemment, aucune crainte de Dieu. Et Finé se lève, il prend une lance, il va dans la tente de l'Israélite et de la Moabite, et il les transperce. Et le texte biblique nous dit que la plaie s'arrêta à ce moment-là. Un homme s'est levé et il a dit « ça suffit, ça suffit ». Dans nos vies, il y a besoin d'une décision pour dire « ça suffit ». Ça, je le jette. Le problème des Israélites, c'est que non seulement ils étaient idolâtres, mais ils se sont vautrés dans le péché et ils en étaient satisfaits et contents. Et Dieu a dit, mais je suis où là-dedans? Je suis où? J'avais un projet pour eux. Ils arrêtent tout, ils stoppent tout. Alors, voilà, il y a une plaie qui est là. Elle s'arrête grâce à Finé. Et après, il y a eu une période de crainte de Dieu qui s'est installée dans le peuple choisi. À ce moment-là, veux-tu ce soir être une finée? Veux-tu être un Néhémie qui saisit le cœur du Père, qui le saisit vraiment dans ses entrailles, Que faut-il faire? Le ménage, peut-être, dans nos vies, dans nos cœurs. Le ménage, qu'est-ce qui prend trop de temps? Qu'est-ce qui bouffe notre temps en 2019? Avec quoi je suis accro? Peut-être à rien, tu vas dire. Puis que ton temps libre, ben tu as du temps libre. Et si on l'utilisait pour chercher le Seigneur, chercher sa face, sa présence? Et si on disait, cette semaine, ces mois à venir, on fait de Dieu notre priorité, qu'il nous montre dans ce nouveau projet Jérichonais, que vous commencez à savoir maintenant, où on veut traverser les rues en priant, donner. Je me suis dit une chose, le but, ce n'est pas que les 56 rues données soient couvertes. Si je l'ai écrit, je m'en repens. Ce n'est pas ça. Le but, c'est d'attraper le cœur de Dieu pour les habitants de telle ou telle rue donnée. Et de ne pas lâcher l'affaire, d'aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que tous soient sauvés. Et si on doit le faire, on va prier, enfin c'est le cœur de Dieu. Et si on doit le faire, on va jeûner. Et si on doit le faire, on va combattre spirituellement, faire le ménage, parce qu'à l'extérieur, il y en a un qui rôde. Il a des armes, et le prince des ténèbres, pour captiver les gens. Parce qu'il y a une question de vie ou de mort. Il y a une question de vie ou de mort. Et c'est le cœur du Père, je crois, par rapport à ça. Alors, est-ce qu'on est prêt à mettre sur l'autel nos défis personnels, nos projets, nos envies? J'ai entendu le témoignage d'une personne qui a un boulot à plein temps, comme la plupart, mais qui choisit de prendre quelques jours par année, un week-end par année, et il prend congé le vendredi pour être à part pour Dieu. Prend ni natel, ni ordi, ni TV, rien. Il se met dans un endroit tranquille et dit « Dieu, je te veux ». C'est hard, hein? Mais pourquoi pas? Est-ce qu'on est prêt à prendre un jour de congé? Est-ce qu'on est prêt à donner tout au Seigneur? Un jour de congé et tout, ben voilà, il y a une mesure, peut-être. Mais faisons de lui notre priorité. Père, merci parce que tu nous invites à venir dans ta présence. Merci pour cette parole de l'apôtre Jean qui dit que si on a l'amour du monde, eh ben on n'a pas l'amour du Père. Et moi, ce que j'aimerais te demander, Père Céleste, c'est que tu nous aides à nous rendre compte les temps que nous vivons, dans les temps que nous vivons. Tu nous aides à faire ce que Jésus disait lui-même, à faire du royaume de Dieu notre priorité. Et donc, Seigneur, tu sais bien qu'on est en 2019, tu sais nos vies, tu sais notre quotidien, tu sais, oui, les impondérables qui sont là, et il y a ceux qui paraissent impondérables, mais qui ne le sont pas. Et puis ce besoin aussi de se reposer qui peut être là. Seigneur, mais tu nous as donné qu'une seule vie. Alors, comme Moïse, aide-nous à bien compter nos jours. Aide-nous, Seigneur, à te mettre en premier. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous laisser enfermer par quoi que ce soit. Parfois, Seigneur, on peut faire des mauvais choix, des choses qui nous lient, qui nous retiennent. Moi, je te demande vraiment que ce mot « jeûne », il devienne une réalité pour nos vies, pour ma vie. Les jeûnes, de nourriture absolue, mais aussi des jeûnes d'autres choses qui prendraient trop de place. Lorsque tu étais à la croix, Seigneur, tu étais nu, tu étais vraiment sans rien. Tu n'as pas dit, oh, je veux garder ma tunique, tu n'as pas dit, je veux ceci, je veux cela. Tu as même refusé tout ce qui était proposé parce que tu voulais simplement t'offrir toi-même tel que tu étais. Et j'aimerais prier ce soir, Seigneur, que ce mot sacrifice qui est si souvent dans ta parole, nous puissions le saisir. Tu t'es sacrifié pour nous. Mais il y a aussi quelque part un sacrifice à faire de nos vies, de notre temps. Aide-nous à faire de toi notre priorité. Seigneur, je n'aimerais pas que mes frères et sœurs et moi-même, un jour, tu nous reproches lorsqu'on sera devant toi. Mais qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Je ne t'ai pas vu, ou trop peu. J'aimerais, Seigneur, vraiment que la communauté, notre communauté, puisse devenir un lieu de prière, un lieu qui permet à ton Esprit Saint d'agir dedans et dehors. qui permet le salut de beaucoup d'âmes. Et Seigneur, je crois que tu nous dis que ça dépend bien sûr de ton sacrifice qui est parfait, mais aussi du nôtre, du don de nos vies, du don de notre temps, du don de nos exigences, de nos attentes entre tes mains, Seigneur. Seigneur, je prie vraiment pour que tu nous aides à saisir le sens de tes priorités. Oui, à te mettre en premier lieu. Guéris nos vies, Seigneur, de tout ce qui a entamé, de tout virus de l'adversaire de nos âmes. Guéris nos vies de toute bactérie, tout ce qui a infecté notre volonté, notre conscience, notre entendement, notre manière de penser. Seigneur, suscite, allume un feu nouveau dans nos cœurs, un feu pour toi, quelque chose de vraiment oui, dans nos temps, dans ce qu'on vit pour la communauté, dans ce qu'on vit, Seigneur, allume ce feu, je t'en prie, allume nos vies, que ce soit un plaisir d'être dans ta présence, de venir à la prière, de vivre les groupes de maison. Seigneur, que ce soit un honneur, même qu'on le considère comme un honneur, de venir dans ta présence, un privilège que tu nous fais. Oui, Seigneur, inverse l'échelle de nos valeurs. Inverse l'échelle de nos valeurs, je t'en prie. Merci pour le témoignage de nos anciens, Seigneur, qui ont accepté de tout te donner, puis tu leur as révélé, tu leur as montré, Seigneur, des choses cachées, des trésors, des richesses extraordinaires qui viennent de ton royaume. Seigneur, il y a tant encore à saisir de ton royaume. Et je prie que cette année 2019 aussi, Père, tu nous aides encore à avancer ensemble. Tu nous aides à renoncer à ce qui nous est cher et qui ne nous aide pas à garder l'essentiel, c'est-à-dire toi, Seigneur, notre relation. Seigneur, je prie pour que nos séries TV préférées deviennent fades. Je prie pour que, Seigneur, l'intérêt de nos âmes d'aujourd'hui, qui n'est pas en adéquation avec ta parole, oui, Seigneur, ce que nous chérissons devienne terne, devienne triste, et que nous soyons assoiffés de toi, Seigneur, assoiffés de ta présence, assoiffés de ta puissance et de ton amour pour Genève, assoiffés de tes plans. Seigneur, pardon, parce que des fois, on méprise tes plans, on les considère pas, on dit que c'est pas important ou finalement c'est moi qui décide. Puis pour finir, tu n'as pas tellement le mot à dire, Seigneur. On était fils et tes filles, et puis on est un peu gâtés. Seigneur, comme des enfants qui sont trop gâtés, on ne considère pas, ou on néglige, comme des enfants qui ont trop de jouets, qui ne savent pas trop avec quoi jouer. Seigneur, on est un peu comme ça dans notre génération, et je te demande pardon. Et je prie, Seigneur, que tu nous aides à aller à l'essentiel, devant toi. Merci, Seigneur. Amen.
Merci Laurent.